Ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Fan de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 25 octobre 2024. La Ville de Québec a inauguré jeudi une murale au parc Karim-Ouellet en hommage aux citoyens noirs et afro-descendants qui ont marqué la vie de la cité. C'est le rappeur Webster, originaire de Limoilou, qui a lancé le projet, réalisé par les artistes visuels Annie Lalande et Jean-Marc Ouattara. Les artistes à l'origine de l'œuvre ont tenu à rappeler devant les médias que cette murale n'est qu'un premier pas pour espérer mieux vivre ensemble. L'artiste Annie Lalande.
C'est pas la fin. Encore cette année, mon fils se fait arrêter pour lui demander qu'est-ce qu'il y a dans son sac puis où est-ce qu'il s'en va.
Le rappeur Webster.
Le racisme existe. Le racisme systémique existe, même si on a un gouvernement provincial qui refuse de le nommer. La murale, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, c'est un outil pédagogique, mais on ne doit pas s'arrêter là.
La murale illustre 395 ans de présence des communautés noires dans la vieille ville à travers 15 personnalités afro-descendantes marquantes. Retrouvez le reportage d'Alice Zanetta au ckiafm.org. Le regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale annonce une première assemblée publique de mobilisation le lundi 28 octobre prochain de 18h30 à 20h30 en vue d'un grand rassemblement féministe qui se tiendra en octobre 2025. La Capitale-Nationale accueillera alors des milliers de féministes de tout le Québec qui revendiqueront notamment la fin des violences envers les filles et les femmes, une véritable lutte à la pauvreté et dénonceront le capitalisme responsable de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité. L'Assemblée publique du 28 octobre se tiendra à la Maison de la Coopération au 155 Charest-Est. Elle est ouverte aux femmes, personnes trans et non-binaires. Après une première édition qui a accueilli plus de 15 000 personnes en 2023, l'étrange carnaval est de retour dans le Vieux-Québec à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le public pourra retrouver l'ambiance victorienne et steampunk unique à l'événement à travers une soirée dansante, plusieurs parcours historiques et gourmands, du cirque, des jeux d'adresse, de l'animation et bien plus. Le tout est gratuit. Pour plus de détails, rendez-vous au www.étrangecarnaval.ca. Un salon d'usine et du livre d'artistes se déroule samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h à 17h à la Charpente des Fauves. Ce salon met de l'avant des publications marginales, des zines, des livres d'artistes et autres objets livresques. Une quinzaine d'auteurs, autrices et artistes seront présents dans le hall de la Charpente des Fauves. Il sera possible de se procurer les publications récentes et d'engager des conversations avec les créateurs-créatrices de Québec et des environs. La Charpente des Fauves est située au 206 rue Christophe-Colomb-Est. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. J'ai passé de nombreuses heures, lorsque j'étais plus jeune, à flotter sur ses eaux au gré du zéphyr, après avoir ramé jusqu'à son centre, allongé sur le dos en travers des banquettes, par des après-midi d'été, à rêver éveillé, jusqu'à ce que le frottement de la coque contre la rive me tire de mes rêveries et que je me redresse pour voir vers quelle côte ma destinée m'avait poussé. Ces jours où l'oisiveté était la plus attirante et la plus productive de toutes les industries. Combien de matins ai-je aussi volé de la sorte, préférant passer la part la plus précieuse du jour à ne rien faire, car j'étais riche, certes pas en argent, mais en heures de soleil et en journées d'été, et je les dépensais sans compter. Et je n'éprouve aucun regret à ne pas avoir gâché davantage dans un atelier à mon bureau de professeur.
Nous ne serons pas seuls.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on aura notre philosophe régulier qui est de retour, Jacques Sénécal, qui va nous parler des mots. Il y a des choses à nous dire sur des mots. En passant, Jacques vient de publier un livre, Comme une étoile filante, qui vient de sortir. C'est dans les librairies, je pense. C'est aux éditions Fides. Peut-être qu'il va nous en parler là, tantôt là, durant sa chronique. Avant de passer avec Jacques, quelques lectures, ma revue de presse habituelle. Là, on va essayer de faire ça rapidement. Dans le devoir de la semaine dernière, de samedi dernier, le 19, pourquoi la conférence sur la biodiversité fait face à des défis majeurs. Alors, peut-être qu'on le voit moins dans les médias, mais depuis lundi, c'est la COP 16. Il y a une COP sur les changements climatiques, mais il y en a une autre COP aussi sur la biodiversité. Et elle a lieu depuis lundi. Ça va se terminer le vendredi de la semaine prochaine. C'est presque deux semaines de rencontres. Et alors on dit dans l'article, la biodiversité continue à se dégrader pendant que les pays discutent des moyens à prendre pour lutter contre le déclin de la vie sur Terre. Les constats sont plus limpides que jamais. La biodiversité continue de décliner rapidement à l'échelle du globe. Les différentes populations d'animaux sauvages ont perdu en moyenne 73 % de leurs individus en 50 ans, essentiellement à cause de l'humanité, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature publié la semaine dernière. Conclusion du rapport, Planète vivante ne signifie pas que plus des deux tiers du nombre d'animaux sauvages de la planète ont disparu, mais que la taille des diverses populations, groupes d'animaux d'une même espèce, partageant un habitat commun, a diminué de 73 % en moyenne. Dans le détail, le plus fort déclin est observé dans les populations d'espèces d'eau douce, moins 85 % suivi des vertébrés terrestres, moins 69 % et marins, moins 56 % Nous avons vidé les océans de 40 % de leur biomasse, a déploré Yann Lawrence de la Société pour la faune, WWF France. En tout cas, c'est l'autre aspect qu'on parle moins souvent. On parle beaucoup des changements climatiques, mais l'autre gros problème, c'est la perte de la biodiversité. Et par contre, on va suivre ça. Je vais y revenir la semaine prochaine. On semble dire qu'il y a des progrès qui se font quand même. Alors, on va avoir la conclusion de cette rencontre-là la semaine prochaine. Autre article que je vais passer rapidement là, dans le devoir d'aujourd'hui. Nos réservoirs hydroélectriques aussi dégagent du méthane. Alors, on ne réalise pas aussi, c'est pas 100 % propre l'électricité, mais c'est quand même, c'est un bon article. Ce puissant gaz à effet de serre est formé quand la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène. Et on dit, par exemple, là, que... On calcule aussi l'empreinte carbone totale de l'électricité distribuée au Québec, incluant le béton et les barrages d'acier, les pylônes, l'essence des camions de mazout d'Hydro-Québec, le mazout des centrales. Total, 34,5 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, on compare, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'empreinte carbone typique du charbon est de 800 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'électricité. Celle du gaz naturel, 490 grammes d'équivalent CO2. Celle d'un parc photovoltaïque, 48. Alors, l'hydro, c'est juste après, là. Mêmement, la géothermie, c'est 38 grammes kilowattheure. Ensuite, on a l'hydro qui est à 34,5. Celle du nucléaire est à 12 et celle de l'éolien est à 11. Donc, en tout cas, c'est un article que je trouve intéressant dans le devoir d'aujourd'hui, section environnement, un article de Alexis Riopel. Aussi, dans le devoir d'aujourd'hui, article intéressant sur les offline clubs. C'est né aux Pays-Bas. En fin de compte, on organise des soirées sans écran. Un concept qui commence à s'étendre ailleurs dans le monde. Amsterdam, dans un joli café, il y a environ 2 semaines, le Offline Club a organisé une autre soirée révolutionnaire. Après avoir payé une dizaine de dollars chacun, les participants avaient laissé leur téléphone dans une boîte à l'entrée pour socialiser, parler aux autres, lire un livre, jouer aux échecs ou tout simplement relaxer. L'objectif fixé et réalisé, se désintoxiquer de la vie en ligne pendant 2 bonnes heures, décrocher du virtuel pour reconnecter au réel. On en est rendu là. Article intéressant dans Le Devoir d'aujourd'hui, vendredi, page A8, section actualité. Nous, au comité Saint-Pierre volontaire, c'est ce qu'on fait. C'est seulement des activités, on pourrait dire, offline. On est peut-être une sorte de offline club, disons, précurseur, avec nos cercles, nos cafés philo, nos cercles de discussion. C'est justement ça l'idée de réunir des gens ensemble pour discuter et en dehors des réseaux électroniques. Il y avait aussi dans la presse aujourd'hui, cette semaine, un article de Vincent Brousseau-Pouliot sur la bienveillance des Québécois. Concept intéressant, peut-être un peu flou à mesurer, mais en tout cas, c'est un institut québécois, l'Institut Humanité, qui a calculé ça. On dit que les Québécois sont les champions de la bienveillance au Canada. Puis on a des statistiques. Alors, on dit, est-ce que les Québécois forment une société plus humaniste, bienveillante, qui agit pour le mieux-être de la communauté? En tout cas, il semblerait que oui, qu'on est plus bienveillant au Québec qu'ailleurs au Canada. Et ben c'est mon ami Luc Gosselin qui me fait venir me souligner cet article-là, me fait connaître cet article-là. Et ben justement, quand on en parler de la bienveillance avec Luc Gosselin là, le 11 novembre, pour ceux qui s'intéressent au local des Amis de la Terre, au Centre Frédéric Bach, à la salle Michel Jourdan, on aura un cercle de discussion sur le revenu de base. Alors, c'est une grosse étape là, d'arriver au revenu de base. C'est quand même tout un défi. C'est audacieux, mais peut-être que notre bienveillance va aller jusque-là. On verra. En tout cas, vous êtes bienvenus là, le 11 novembre, lundi le 11 novembre, au local des Amis de la Terre, Centre Frédéric Bach. Dans le Philosophie Magazine, le dernier qui est en kiosque toujours, je vous en avais parlé, c'est le numéro de septembre 2024. Être démocrate, c'est quoi? Alors, toute une série d'articles sur la démocratie. Une réflexion sur la démocratie, puis avec les élections qu'on voit là, poindre aux États-Unis, ça nous porte à réfléchir sur c'est quoi la démocratie, l'avenir de la démocratie, etc. Donc, c'est pour ceux qui veulent approfondir l'idée de la démocratie, le Philosophie Magazine, qui est encore en kiosque, être démocrate, c'est quoi? Aussi, un livre dont, justement, Jacques Sénécal me soulignait là, ces jours-ci, là, la sortie, c'est « L'idée écologique et la philosophie », un livre de Laurence Hansen Love, « À la recherche d'un monde commun ». C'est aux éditions Éco-Société. C'est exactement ce dont on parle beaucoup, en tout cas, ce dont on parle beaucoup à l'émission ici, écologie et philosophie. Je n'ai pas encore lu, j'en ai pris connaissance là, ces jours-ci. Alors, on va y revenir. Alors, je vous le répète le titre, là, « L'idée écologique et la philosophie » de Laurence Hansen Love aux éditions Éco-Société. Puis, pour terminer, petite nouvelle plus légère, que j'ai consulté l'Almanach canadien 2025 et on nous prévoit un hiver doux et sec. Donc, peut-être qu'il y a un peu d'optimisme à avoir dans tout ça. On verra. Alors, on prend une petite pause musicale et au retour, on va aller avec Jacques Sénécal. Thank you.
L'amour a changé de salon. Un soir de brume, il s'est perdu. N'a plus retrouvé ma maison. L'amour a changé de salon. Je vous en garde quelques larmes que nous boirons avec le thé. Pas la peine d'en faire un drame entre gens de bonne société. L'amour a changé de salon. Un soir sans lune, il s'est perdu. À deux rues de vos illusions, l'amour a changé de salon. Mais gardez-m'en donc quelques larmes que nous boirons à sa santé. Pas la peine d'en faire un drame entre gens de bonne société. L'amour a changé de salon. Un soir de pluie, il s'est pendu à trois rues de nos illusions. L'amour a changé de salon. L'amour a changé de salon. Un soir de brume, il s'est perdu. N'a plus retrouvé ma maison. L'amour a changé de salon. L'amour a changé de salon.
Alors, c'était Pas la peine d'en faire un drame. C'est de l'album Le Jaseur Boréal de Julose Bocan. En fait, c'est pas Julose Bocan, évidemment, qui chante. C'est Madame Barbara d'Alcantara. Avant ça, on avait eu Richard Séguin. Et encore là, c'était Joran là, qui chantait sur cette chanson-là qui est Je rêve à demain. Alors, Jacques, est-ce que tu es avec nous?
Je suis avec vous, certainement.
Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
Ben, le thème, c'est les liens, bien entendu. C'est un très beau thème, d'ailleurs, très large. Et aujourd'hui, ben, puisqu'on parle de liens, ben, je parlerai de mots, des mots qu'on utilise dans la société actuelle, pour échanger, pour nommer les choses. Je trouve que c'est important, les mots. En philosophie, on donne une définition précise pour s'approcher davantage de la vérité, pour mieux connaître le monde. Alors, cette précision dans la définition, dans les mots qu'on utilise, c'est très important, puisqu'on s'entend, tout le monde doit s'entendre. Alors aujourd'hui, je vais donc m'arrêter sur certains mots comme ça, au hasard, les plus populaires, les plus actuels, et on pourra réfléchir justement sur cette mode qu'on a réalisée au cours des dernières années. Mais avant, j'aimerais ça vous dire un petit mot sur le livre, le septième essai que j'ai publié cette semaine aux éditions Fides. Ça s'appelle « Une étoile filante entre deux néants » et autres destinations philosophiques. Alors, une étoile filante entre deux néants, c'est un titre qui m'est inspiré de Michel de Montaigne, qui disait que la vie, c'est une éloise, un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle. Alors, avant de naître, nous sommes rien, puis après, ben, nous sommes rien. Alors, c'est donc une étoile filante entre deux néants. Alors, c'est un essai qui tente de répondre aux multiples questions que mes élèves me posaient en classe, surtout les retraités, dans les dernières années. Alors, j'avais plusieurs questions, puis finalement, mes fidèles et moi, on s'est entendus pour prendre les 40 plus importantes questions, puis je réponds rapidement aux 40 questions. Alors, c'est un livre de 200 pages, il se vend 17 $, il se lit très bien, alors je vous le conseille fortement. Alors, une étoile filante entre deux nerfs. Et si on revenait au thème lui-même, c'est-à-dire au lien, ben je vais prendre des mots comme ça, des habitudes, des mots qu'on utilise par habitude sans trop connaître la signification. Comme par exemple le mot ADN, tu sais, bon, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est quand même une acide importante dans nos gènes. Alors, l'ADN, c'est devenu un peu synonyme d'identité, puis tout le monde utilise ça. Même le coach du Canadien va parler de l'ADN du club. Alors, l'ADN du club des Canadiens, l'ADN du club des Rangers de New York. Alors, vous voyez un peu comment un terme très scientifique, très précis, devient à la mode et il est utilisé à toutes les sauces. Il y a le mot amour aussi qui est devenu très important. Je me souviens, il y a une cinquantaine d'années, quand j'étais jeune, avant de dire à ma future femme que je l'aime, j'avais réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais réfléchi plusieurs mois, parce qu'on dit pas je t'aime à n'importe qui. On dit je t'aime à une personne qu'on aime pour vrai. Alors qu'aujourd'hui, l'amour, c'est devenu banal. On parle même du pont de Québec qui manque d'amour, tu sais. Alors, c'est un thème qui est un peu galvaudé. J'entends à la radio, là, puis j'entends souvent « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Bon, on s'aime beaucoup. Je suis bien d'accord avec ça, mais tu sais, dans ma tête à moi, le mot « amour » doit être plus mieux souligné. Tu sais, il a beaucoup d'importance. Alors, le fait de l'utiliser à tout escient, ben ça enlève un peu de sa valeur. Il y a aussi le fait que dans nos sociétés, on se contente de l'approximation, de l'à peu près, d'où les habitudes des chevilles comme genre. Tu sais, les jeunes, par exemple, vont souvent dire c'est comme genre, puis ils vont parler, puis ils vont terminer avec le mot genre. C'est une sorte d'approximation. On ne sait pas trop ce qu'on veut communiquer. Mais c'est dans le comme, c'est dans le genre, tu sais. Alors, dans le style, dans le genre, c'est comme ça. Alors, c'est pas tout à fait précis. On se fout pas mal de la précision. La précision est pas dans notre langage. La précision est peut-être ailleurs, mais elle est certainement pas dans notre langage. Comme par exemple le mot communauté. Le mot communauté, c'est un mot très, très important. Mais aujourd'hui, on l'utilise d'une manière très précise. On va parler, par exemple, de la communauté afro-québécoise ou de la communauté haïtienne ou de la communauté LGBTQ, la communauté des obèses. Le mot communauté est devenu intersectionnalité. On va même parler de la communauté blanche, de la communauté autochtone. C'est un peu comme si la collectivité était séparée en petites communautés et toutes ces petites communautés devaient être bien précisées, bien nommées. Alors, j'ai l'impression que ce mot-là, communauté, il est un peu exclusif. Alors que nous vivons une époque, justement, où on tente le mieux possible d'être inclusif. Alors, parler des communautés, par exemple, de personnes dans des situations de handicap, mais c'est un peu les cerner, les ghettoiser. Alors, c'est les exclure de l'ensemble. Alors, c'est des termes, le mot communauté est utilisé, à mon sens, en tout cas, ça peut être discutable, ça va de soi. Ce que j'avance est toujours discutable, mais ça peut nous faire réfléchir aussi. Alors, utiliser le mot communauté à propos de tout et à propos de rien, ça peut devenir un terme exclusif plutôt qu'un terme inclusif.
Oui, mais je pense que derrière ça, c'est l'idée, souvent, c'est des groupes qui, justement, sont opprimés ou en difficulté, puis ont besoin de se rassembler pour s'entraider. Oui. On pourrait dire la communauté gay, qu'on entend souvent. C'est parce que ces gens-là étaient un peu ostracisés, là, beaucoup moins de nos jours, mais il était un temps qu'ils étaient très ostracisés. Ils avaient besoin de se retrouver ensemble pour avoir un sentiment de communauté. Là.
Fait que c'est, oui, oui, oui. Il est peut-être alors, c'est bon. Il y a des choses bonnes, mais il y a des dérives possibles. T'sais, quand on insiste trop, ça peut devenir... Ça peut prendre son contraire. C'est comme, par exemple, le mot éthique. Le mot éthique, c'est un terme qui est devenu très, très, très populaire. Le mot éthique est souvent associé à la bienveillance, prendre soin des choses. L'éthique, on parle de l'éthique de la sollicitude. Ça vient, en fait, beaucoup des universitaires américains qui, dans les années 80, ont développé ce qu'on appelle l'éthique du care, de Carol Killigan, notamment. C'est une éthique très personnelle. Je dis bien personnel, c'est pas communautaire, c'est pas collectif, c'est pas universel, c'est très personnel. Alors, c'est entendu qu'aujourd'hui, on a tendance à miser sur l'éthique personnelle. Il faut être éthique, il faut être correct personnellement, sinon, politiquement, t'es mal vu. Tu sais, je pense, par exemple, au maire de Toronto qui a dû démissionner. Tu sais, c'est un maire, il fait de la politique à Toronto. Il a dû démissionner parce qu'il est infidèle, tu sais, dans son mariage. Alors, on voit tout de suite l'importance, la domination de l'éthique par rapport à d'autres comportements humains, ce qui peut être, je sais pas moi, la religion ou la politique. L'éthique prend beaucoup, beaucoup d'importance à ce temps-là. C'est pas une mauvaise chose, mais tu sais, ça peut devenir une domination. Puis quand il y a domination, mais il y a aussi soumission. Puis pour quelqu'un qui est un penseur libre, qui se dit libertaire, mais la domination est toujours mauvais signe. C'est un mauvais symbole, c'est une mauvaise passe, autrement dit. Alors, il y a beaucoup de mots. Il y a le mot, par exemple, dépôt. Vous avez certainement remarqué, il y a Home Depot, il y a Renault Depot, il y a Café Depot, il y a Metal Depot, il y a Jeans Depot, il y a Sport Depot. C'est bien très, très, très à la mode. J'ai même vu Saucisse Depot, tu sais. Pourquoi cette fixation-là? Moi, je trouve que c'est une vraie fixation. On voit même la sac dépôt. Tu sais, la Société des alcools du Québec a maintenant un sac dépôt. Alors que le mot dépôt en anglais, c'est un entrepôt. Alors, on aurait très bien pu traduire ça par entrepôt. Mais on prend le mot anglais, on prend le mot dépôt. Alors qu'en français, le mot dépôt, ben, il prend un sens différent. Par exemple, je sais pas, moi, on peut aller à la caisse de dépôt puis déposer son argent. C'est un lieu où on dépose. Un entrepôt, c'est un lieu où on dépose aussi. Un garage, c'est un lieu où on dépose. Le dépotoir, c'est un lieu où on dépose. Alors, j'ajoute que le mot dépôt en français a aussi une très belle signification, mais c'est complètement différent du dépôt en anglais. T'sais, en français, ben, ça peut vouloir dire boue, tartre, limon, lit, incrustation. C'est-à-dire tout ce qui reste au fond d'un récipient, d'une couche culotte. Alors, moi, je trouve que voir des termes comme Renault dépôt, tissu dépôt, jeans dépôt, je trouve que ça fait un peu vulgaire. Ça fait un peu différent de ce que normalement le mot entrepôt voudrait dire. Alors, peut-être que le mot dépôt est devenu à la mode parce que quand on veut peut-être nous avertir qu'un achat chez machin dépôt aboutirait inévitablement au dépotoir. C'est peut-être ça. On est peut-être conforme, d'accord, au mode des mots, mais sans dire long quand même sur nos capacités de nous distinguer. T'sais, il me semble qu'on devrait davantage utiliser des termes français plutôt que des termes anglais qu'on comprend mal. Alors, c'est toujours la même chose, les liens. Les liens, quand on comprend mal les mots, mais forcément, il y a de la confusion. Jacques, il y a de la confusion, mais...
Mais Jacques, je vais t'arrêter deux secondes. On va prendre une pause musicale, mais je voulais juste faire un petit commentaire. C'est que, entre autres, quand on lit Aristote, c'est quand même assez ardu à lire Aristote, là, mais lui, pour Aristote, les philosophes à l'époque, c'était très important les mots. Alors, il prenait beaucoup de temps à expliquer quand oui. Je parle de tel concept, voici ce que c'est pas. Parce que si on a toutes sortes de définitions vagues, ben on parle pas de la même chose finalement.
Non. Exactement. Alors, c'est comme par exemple, on va écouter la musique, mais il y a beaucoup de choses en écologie qui sont des mots qui sont galvaudés. Là. On reviendra si tu veux. Oui. J'ai beaucoup d'autres choses à dire.
Fait qu'on prend une pause musicale, puis on poursuit sur les mots au retour.
La fin commence au gré de quelques confidences. Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. La morale brille par son absence. Les dictats sont sans conséquence. Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. Les désirs ne sont plus souffrance, ils sont maintenus à distance. Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. Si j'ai le culte de la performance, pour qui, pourquoi se faire violence? Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. On croit choisir son existence, c'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. C'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant quand le futur se conjugue au présent. Au présent.
Alors, c'est Jean-Marc Aurel, c'est son nouvel album là, qui veille de sortir lui aussi. On l'a en primeur. Et l'album, c'est Je cours après la lune. Et je pense que le nom de la chanson, c'est Le futur se conjugue au présent, mais je suis pas certain. Alors, Jacques.
Bon. Alors, je vais continuer mes réflexions sur les liens, sur les termes, sur les mots qu'on utilise. Par exemple, développement durable. Le développement durable, c'est très à la mode. J'ai même vu le capitalisme vert, l'économie circulaire, la croissance verte, le Green New Deal. Alors, développement durable, ça vient du rapport Bretton en 1987, puis c'était d'ailleurs un mot anglais qui est Development Sustainable. Qui veut dire, si on traduit correctement, une exploitation, parce que le développement, on le traduit par développement, mais c'est une exploitation. On pourrait dire une exploitation endurable et non pas un développement durable. Une forêt, ça se développe, quand ça se développe, ça grandit Alors que ça, c'est le véritable mot développement. Mais ici, le mot développement veut simplement dire exploitation. Alors, ce serait intéressant qu'on change de terme. Au lieu de parler d'exploitation durable, on devrait parler d'exploitation endurable, acceptable. Alors, c'est une contradiction aussi. C'est une espèce de confusion, encore une fois, là, qui circule. Comme le mot écosystème. Le mot écosystème signifie un milieu écologique, un biotope, un milieu, un habitat écologique. Mais c'est un terme qui est devenu très, très populaire. On parle d'écosystème économique, écosystème industriel. On utilise le mot écosystème à propos de tout, à propos de rien. Alors, moi, je trouve, encore une fois, qu'on comprend mal le mot écosystème quand on l'utilise. C'est une confusion, une mauvaise compréhension. La même chose pour le mot expertise. Le mot expertise, c'est signifie en français une analyse d'expert. C'est pourquoi on peut parler de l'expertise d'une peinture, par exemple. Les experts se sont penchés sur une peinture pour voir si elle était authentique. Mais aujourd'hui, on utilise le mot expertise dans le sens d'expérience, de savoir-faire. Alors, pourquoi ne pas utiliser le mot compétence en français plutôt que le mot expertise? Alors, c'est encore une fois une confusion. Le mot problématique qui est devenu très, très populaire, au lieu de dire problème, on dit problématique probablement parce que le mot problème est trop dangereux. On le cache un peu avec le mot problématique. Alors que le mot problématique en français signifie une approche, une manière d'approcher un problème. Par exemple, on parle de la problématique d'une problématique politique, d'une problématique écologique, une manière écologique ou une manière politique d'aborder un problème, ou une problématique écologique, une manière économique d'aborder un problème. La problématique n'est pas un problème, mais le mot problématique, quand on l'utilise, nous, il est synonyme de problème, parce que le mot problème fait trop problème. Alors, on dit problématique. Alors, encore une confusion. Alors, vous en avez comme ça des confusions à tonnes. Le mot toxique, par exemple, on l'a entendu beaucoup cette semaine à cause de l'école Bedford à Montréal, où il y a un clan de professeurs musulmans, islamistes plus précisément, qui font de l'endoctrinement religieuse. On l'a appris par la suite que c'était des musulmans, des islamistes, en fait, des radicaux. Mais au départ, on a quand même dit que c'était une situation toxique. On parle d'une personne toxique. On n'ose pas dire exactement de quoi il s'agit. On dit le mot toxique, simplement. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas en refusant de nommer une chose qu'on la fait disparaître. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, dire toxique au lieu de dire caractère impulsif ou caractère égocentrique ou radicalisé, alors ça évacue le véritable problème, puis on s'en tient à quelque chose d'à peu près, d'approximatif. Une personne toxique, un patron toxique, c'est un terme qui veut pas dire grand-chose, puisque toxique est utilisé à des substances qui sont dangereuses pour la santé, t'sais. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Il y en a beaucoup de mots comme ça qui sont problématiques, c'est-à-dire qui causent des problèmes à cause, justement, de leur confusion. Il y a le mot résilience aussi, qui est utilisé, qui est très à la mode, alors que dans le fond, on pourrait l'utiliser, le mot autrement, capacité de récupération, régénération, robustesse, consistance, mais on entend le coach du Canadien dire que son équipe est résiliente. Le mot résilience est à la mode. Nous sommes vraiment conformes à la mode. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, Jacques.
Oui, bien, écoute, moi je t'écoute, puis je pense aussi qu'il y a une différence. Il y a beaucoup de choses dont tu fais allusion. Ce sont des métaphores, tu sais, comme on va dire, c'est un écosystème, mais ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce que c'est un écosystème. Le mot devient comme une métaphore. Et les métaphores étaient beaucoup utilisées par les poètes qui faisaient des images. C'était comme un peu le langage de la littérature. Mais les philosophes, je pense qu'ils étaient plutôt prudents là, avant d'utiliser des métaphores. Ils aimaient ça avoir des termes plus précis. Je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que tu dis, que quand on est en philosophie, il faut être attentif au vocabulaire, tandis qu'en littérature, on se laisse aller à des métaphores que je pense qu'on utilise moins en philosophie.
Oui, c'est vrai qu'en littérature, en poésie, on a le droit d'utiliser les métaphores, puis on le fait souvent. Mais quand on parle... Quand un ministre ou une ministre parle d'écosystème, dans ma tête à moi, je ne pense pas qu'il pense que ce qu'il utilise comme terme, en utilisant le terme écosystème, je ne pense pas qu'il pense à une métaphore. C'est qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, le mot écosystème. Il l'a entendu dire, puis il trouve le mot beau, il trouve le mot juste entre guillemets, bien entendu, mais dans le fond, il ne sait pas que c'est une métaphore. Mais à moins que ce soit un poète, mais on entend ce terme-là, le mot écosystème, régulièrement, alors que c'est un terme écologique.
Oui, bien c'est de là, justement, que tu dis... La mode, les mots à la mode, ça paraît bien de sortir une métaphore à la mode, mais c'est pas tout à fait, des fois, la bonne façon là, de s'exprimer. Là.
Il y a aussi le terme, des termes à la mode, comme le mot culte. Tu sais, on parle d'un film culte, d'un objet culte, d'une personnalité culte, d'une chanson culte. D'une image culte, alors que dans le fond, c'est sûr que ça fait métaphorique, c'est sûr que c'est une métaphore. Mais la métaphore change de sens quand on parle d'un film culte, parce que un culte, c'est autre chose qu'un film, où on parle du mot icône aussi. Le mot icône, on parle d'une icône comme quand on parle d'une vedette, alors que c'est une représentation religieuse dans un rite byzantin. C'est pas... Moi, en tout cas, ça me touche. Ça me touche parce que je me dis, nous vivons dans une époque où les termes poétiques, les termes religieux, les termes scientifiques, les termes communs sont confondus. On dit un peu comme si on disait n'importe quoi. Ça me frustre un peu parce que, comme tu le disais tantôt, étant donné que j'ai eu une formation de philosophe, alors forcément, les termes, les mots doivent avoir un sens précis et c'est la meilleure manière d'utiliser un terme pour le communiquer à un autre, pour avoir un bon lien, un lien précis, un lien solide, un lien authentique avec un autre. Mais si j'utilise des termes qui sont approximatifs, si je passe mon temps à dire « genre, c'est comme », mais qu'est-ce que je veux communiquer exactement? Alors, il y a peut-être un ressenti qui est difficile. Le mot « ressenti », d'ailleurs, est très à la mode, soit dit en passant. Il y a peut-être un ressenti qui est difficile à cerner, mais à ce moment-là, on s'examine davantage, ou on va voir un psychologue, ou on va voir une personne spécialisée pour connaître un peu les troubles ou les perturbations de ce ressenti-là. Moi, je trouve encore une fois que le mot « ressenti », il devient tellement prioritaire que on se donne pas la peine de faire, d'y faire entrer quelque chose de raisonnable pour bien comprendre la nature, pour bien comprendre les autres, pour bien comprendre l'humanité, il faut avoir du ressenti, bien sûr, mais il faut aussi avoir un langage qui soit rationnel, qui soit raisonnable. Il faut pas évacuer la raison. Moi, je suis pour un rationalisme plus présent. Et je remarque qu'il est de plus en plus évacué et ça risque de briser des liens avec les autres, avec la nature, avec la famille, avec les autres êtres humains en général.
Je vais réfléchir à ça parce que moi, j'ai tendance à utiliser des images comme ça pour décrire des choses, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Je pense, par exemple, en toute simplicité, bien, on parle toujours du philosophe américain Thoreau, qui est probablement un des philosophes les plus connus aux États-Unis et peut-être après Emerson, un personnage vraiment important. Puis, je vais dire des fois, aux États-Unis, Thoreau, on pourrait dire que c'est un personnage iconique. Mais c'est dans le fond, ça ne veut rien dire. C'est ça que tu me dis, qu'il faut que je fasse attention quand j'utilise ce terme-là.
Il faut pas oublier... il faut pas oublier ce que disait Camus, là. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, si on veut que le monde se porte mieux, ça serait une bonne chose qu'on soit plus précis dans notre langage. Et dans la classe politique, le langage qui est utilisé, c'est un langage qu'on appelle langue de bois, qui veut rien dire. Tu sais, c'est des termes qui sont tellement insignifiants que c'est un peu des termes qui bouchent un vide et qui n'a aucune signification. Alors, c'est pas en parlant de cette manière-là qu'on va ajouter du bonheur à la vie. Au contraire, tu sais. Alors, il faut bien nommer les choses, parce que quand on les nomme mal, on ajoute au malheur du monde. Alors, il faut aussi dire, puisque nous sommes en Amérique du Nord, au Québec, en français, il faut quand même faire un effort pour parler autant que possible en français. J'écoute la télévision, j'écoute la radio, je lis les journaux, et j'en reviens pas des termes anglais qui sont partout, qui viennent tout seuls. Mes enfants parlent quasiment anglais quand tellement il y a des mots anglais dans leurs phrases françaises. Tu sais. Alors ça, je déplore ça. Je déplore ça parce que ça va créer... On s'en va vers une culture, vers des habitudes qui sont pas les nôtres directement. Au lieu de dire « clash des générations », je préfère dire « un choc de génération ». Au lieu de dire « un pattern », je préfère dire « un modèle », ainsi de suite. Au lieu de dire « trash », j'aime autant dire « ordure ». Au lieu de... Il y a des termes qui sont utilisés quotidiennement en anglais, alors qu'ils auraient une meilleure sonorité si on les utilisait en français.
Écoute, Jacques, on va prendre une dernière courte pause musicale, puis on va approcher de la fin de l'émission. Fait que, pense à ça, on va conclure là, au retour de la pause musicale.
C'est d'accord. Thank you.
Alors, Jacques, il nous reste 2 minutes pour conclure.
Oui, bon, écoute, je vous ai parlé, j'ai parlé aujourd'hui des termes, des différents termes qui peuvent avoir de la confusion et moi je suis pour la clarté autant que possible, mais aussi je dois avouer que c'est une mode, que c'est des constantes et que je suis peut-être trop vieux, un peu en dehors de la civilisation qui est en train de commencer, qui est en train de se métamorphoser. Moi, je trouve que le temps, les choses se passent très, très vite. Puis, évidemment, les termes qu'on utilise changent, se transforment. Est-ce que j'ai raison de m'offusquer de ce changement-là? Je pense que j'aurais tort. Mais simplement, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais attirer l'attention des auditeurs sur des mots qui peuvent porter à confusion. C'est que le mot expertise ne veut pas dire expérience. Le mot problématique ne veut pas dire problème. J'ai même entendu un conseiller municipal dire qu'il y avait des problématiques avec le micro. Tu comprends? Alors, moi, dans mes oreilles, ça sonne tout croche, avoir des problématiques avec un micro. Quand on sait que le mot problématique signifie une approche particulière de problème. Alors, c'est pour te dire, c'est pour vous dire que je suis peut-être en dehors de ce qui se passe, mais je remarque que les termes changent, les liens changent, les mots changent, puis il faudrait autant que possible s'en tenir à plus d'authenticité.
Mais Jacques, puis, on est rendu à la fin d'émission.
C'est pour ça que je dis qu'il faut s'en tenir à plus d'authenticité.
Mais on pourrait revenir là-dessus parce que toi et moi, on est en train de lire le dernier livre de Harari, Nexus, qui parle justement de ça, la connexion, les mots, le lien entre les mots, le lien entre l'intelligence artificielle. On pourra peut-être revenir parce que c'est un sujet très important. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs là, ce livre-là de Harari. C'est lui qui avait écrit Sapiens, là, son dernier livre, Nexus, qui est excellent. Fait que là-dessus, Jacques, merci encore. Puis on se revoit dans un mois, comme d'habitude, à la fin du mois de novembre pour ta chronique philosophique mensuelle.
C'est bien d'accord.
Bonne journée.
Bonne journée, Jacques.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualité locale, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec réveille, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 25 octobre 2024. La Ville de Québec a inauguré jeudi une murale au parc Karim-Ouellet en hommage aux citoyens noirs et afro-descendants qui ont marqué la vie de la cité. C'est le rappeur Webster, originaire de Limoilou, qui a lancé le projet, réalisé par les artistes visuels Annie Lalande et Jean-Marc Ouattara. Les artistes à l'origine de l'œuvre ont tenu à rappeler devant les médias que cette murale n'est qu'un premier pas pour espérer mieux vivre ensemble. L'artiste Annie Lalande.